Du Nord au Sud, les podcasts de Radio Campus Pau pour parler de la langue et de culture hispanique et latino-américaine. Et parfois, pour parler les français mélangés à l'espagnol.
Bienvenidos a todos a nuestra doceava emisión del podcast Du Nord au Sud. Aujourd'hui, on va plonger dans la langue espagnole du Mexique. En des variantes la plus importante de l'espagnol après l'espagnol d'Espagne, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est le sujet, c'est en ton pays, Linda. Bonjour.
Bonjour, Clara. Oui, ça fait plaisir de parler de mon pays et surtout l'espagnol, qui est une langue assez différente de l'espagnol d'Espagne. Et bon, si tout le monde est d'accord, j'aimerais prendre un moment pour décrire mon pays natal, le Mexique. Pour commencer, avant de parler la langue. Le Mexique est un pays latino-américain de l'Amérique du Nord et le pays hispanique le plus peuplé au monde. Sa population équivaut à celle de l'Espagne, la Colombie et le Pérou ensemble. Il a une riche histoire culturelle qui remonte à l'époque préhispanique avec les civilisations aztèques, toltèques et mayas, ainsi qu'une histoire coloniale espagnole qui a duré plus ou moins 300 ans. Actuellement, il existe environ 60 langues indigènes parlées tout le long du territoire. Il est aussi connu par sa gastronomie qui fait partie du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité.
Wow, trop intéressant cette description, Linda. Merci pour cette petite tour pour le Mexique et pour connaître mieux. Aujourd'hui, on va parler avec un Français qui l'avait voyagé pour un échange au Mexique. Pendant ses études de master, et lui, j'ai triché un peu parce que c'est mon collègue du labo, c'est aussi un autre géographe, et lui, il va nous donner ses remarques, ses points de vue, ses regards comme français du Mexique, et c'est aussi une petite surprise pour Linda, parce que c'est vrai que quand on est local, on ne s'attend pas que les gens parlent aussi bien, c'est un peu un spoiler de notre pays, et avec plein de détails, et on va entendre maintenant l'entretien.
Antoine, comment décrirais-tu le Mexique?
Alors c'est une vaste question parce que du coup je suis allé deux fois au Mexique, donc pendant un mois à chaque fois. Et alors bon, moi ce qui m'a marqué au Mexique, c'est quand même très différent de la France. Donc déjà je trouve que c'est beaucoup plus coloré qu'en France, rien qu'au niveau des immeubles, etc. Donc il y a quand même déjà une sensation de beaucoup plus de couleurs, etc. Beaucoup plus, alors c'est plus bruyant aussi, enfin même dans les marchés, etc. Moi, ce qui avait marqué, c'est que tout le monde mettait sa musique le plus à fond possible. Et aussi assez vivant, donc avec beaucoup de marchés de rue, de ventes de produits artisanaux, enfin notamment, alors soit sur les spots touristiques, mais aussi sur dans les marchés avec beaucoup de marchés de rue, qu'on a assez peu en France, avec des marchés de rue. Enfin moi je me souviens parce que j'étais dans une ville dans la banlieue de Mexico avec un marché de rue qui devait faire 2 kilomètres de long ou quelque chose comme ça, avec des fruits. Et en fait ce qui était marrant, c'est qu'il y avait un mélange de plein de trucs vendus, ce qui est pas le cas en France où c'est très compartimenté, on va dire. Et là, donc, il y avait des mélanges de... Il y avait des fruits qui étaient vendus. À côté, il y avait des tennis, des jouets d'enfants. Donc, en fait, c'est un peu ce mélange, ce melting pot qu'on n'a pas trop en France. Et voilà. Et après, bon, je dirais aussi un peu inégalitaire, parce que par rapport à la France, etc., il y a quand même plus de pauvreté. Donc ça se sent dans certains endroits, notamment en périphérie des villes, où on passe sur des banlieues très, très pauvres. Et donc ça, évidemment, ça marque aussi. Donc voilà. Donc ça serait aussi... un peu. Et troisième aspect, je dirais un peu convivial, où les gens sont très sympathiques, enfin, et vont être beaucoup dans l'entraide. Et c'est aussi de savoir, enfin, quand on est français, qu'est-ce qu'on fait au Mexique, pourquoi on est là, etc. Et aussi assez tranquille. Enfin, je trouve que les gens au Mexique sont moins stressés qu'en France et plus tranquilles, quoi. La vie va moins vite qu'en France, quoi. C'est un peu les...
Mais oui, c'est vrai qu'au Mexique, c'est différent, c'est aussi plus libre par rapport à les règlements pour peindre ta maison. Et c'est un peu plus compliqué ici de changer même la couleur de ta fenêtre. Ça fait que le Mexique soit plus coloré aussi. C'est vrai, je suis d'accord. Et maintenant, en parlant plus spécifiquement sur la langue, et selon ton regard, qu'est-ce que rend l'espagnol du Mexique si différent de l'espagnol des autres pays hispanophones?
Alors, je connais pas tous les pays hispanophones parce que j'ai vécu aussi un an en Espagne. Donc, Il y a une chose qui est assez différente quand même, et que je trouve que l'espagnol du Mexique est plus facile à comprendre pour les Français notamment, c'est en fait que les gens, alors bon, c'est pas directement sur la langue, mais parlent quand même beaucoup plus lentement au Mexique et avec les latino-américains en général à qui j'ai parlé que les Espagnols d'Espagne, qui parlent extrêmement rapidement et plus fort aussi. Donc en fait, il y a déjà un côté au niveau de la rapidité de la langue qui est beaucoup plus importante en Espagne qu'au Mexique. Donc ça, c'est déjà ça. Et l'autre aspect que aussi j'ai trouvé au Mexique, c'est qu'il y a beaucoup d'expressions qui ont lieu en Espagne et qui se disent pas au Mexique. Donc, parce que moi, j'étais avec mon ex qui était mexicaine et du coup, je discutais avec sa famille, etc. Et il y avait pas mal d'expressions qui sont souvent utilisées en Espagne qui sont pas utilisées au Mexique. Donc moi, que j'utilisais et que ça, qui comprenait pas ce que je voulais dire. Par exemple, bonito, ça se dit pas trop au Mexique et on dit plutôt lindo. Chulo, ça se dit beaucoup en Aragon et au Mexique, personne ne le dit. Et il y a aussi des expressions mexicaines que je connaissais pas du tout au début. Par exemple, enfin, j'ai une anecdote. Enfin, le grand-père de mon ex, qui était assez strict, etc., dit à un moment, mais boy, un drogarme. Et moi, au début, j'ai mal compris. J'ai compris, mais boy, un drogarme. Donc, je me suis dit, mais pourquoi il veut se droguer? Enfin, du coup, je comprenais pas du tout. Et en fait, ça veut dire, je dois rendre un service. Et donc, du coup, il y a un peu ces expressions qui sont différentes qu'en Espagne. Donc, bon, il y en a plusieurs aussi. Il y a me fue los cabras, et etc. Enfin, j'ai perdu un peu la tête. Et donc, voilà. Enfin, c'est des expressions qu'au début, on comprend pas parce que c'est pas non plus utilisé en Espagne.
Ah, c'est ton père qui t'a fait peur pour ça, toi qui t'es sa fille.
Non, mais.
Non, c'est une blague, c'est une blague. Non,
et surtout que quand, en fait, il disait ça, enfin, ça les faisait rigoler parce que du coup, je l'ai regardé.
Oui.
Et il disait, mais, enfin, du coup, enfin, oui. Parce que je buguais, du coup, parce que je comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Pourquoi il parle de chef d'un coup? Enfin, quel rapport?
Mais c'est vrai que quelquefois, il y a des miscompréhensions aussi par rapport à l'intonation, à la façon de prononcer les mots. C'est vrai que ça peut donner des miscompréhensions. C'est pareil ici en France. Mm. Hein? Je sais que, par exemple, ici à Pau, il y a des choses que se dit pas dans notre région de France, même en France et dans notre pays. Par exemple, quand j'arrivais, j'ai appris qu'ici, la poche, c'est tellement différentes choses. C'est le sac à course, c'est la poche, c'est le porte-monnaie. Ah non, c'est impressionnant. La langue a ses versatilités aussi. C'est passionnant comme sujet, c'est sûr. Mais au Mexique, je sais pas si tu connais aussi l'expression ahorita.
Si.
J'ai habité aussi au Mexique à un moment et ahorita, c'est vrai qu'on le dit aussi au Paraguay. Mais au Mexique, est-ce que tu as arrivé à comprendre qu'est-ce que signifie ahorita, Antoine?
Mais en plus, moi, ils disent souvent ahorita, mais enfin, c'est pas vraiment maintenant. Enfin, c'est souvent plus que tout de suite. Enfin, en gros, parce que moi, je pensais que c'était maintenant ou tout de suite, mais c'est vrai que bon, enfin, ils l'utilisent un peu à tort et à travers tout le temps.
Oui, c'est vrai, ça peut dire aussi jamais.
Ouais.
Ça, c'est le pire. C'est, si un Mexicain te dit, je vais faire ça ahorita, tu sais jamais si ça va réellement arriver.
C'est vrai qu'ils ont un rapport au temps. Enfin, moi, qui me semble un peu plus différent qu'en France, que, il me semble que les gens sont plus tranquilles et donc sont plus en retard aussi. Enfin, ils ont moins, ce rapport au ton ponctuel qu'on a en Europe, très très cadencé, quoi. Enfin, moi, je sais pas si t'as eu cette.
Oui, c'est vrai. Chez moi, c'est un peu comme ça aussi. Ça, c'est les gens arrivent pas en horaire, mais c'est bizarre parce que quand tu es de l'avant, tu arrives à savoir quel est le moment dans lequel tu dois arriver. C'est bizarre parce que tu dis on va arriver à 10h du matin, mais c'est jamais 10h du matin. Mais tu sais dans quel moment, et normalement les gens arrivent un peu près pareil. Et c'est intéressant, ouais, que quand tu connais les codes. Et moi, j'avais un peu de mal avec ça en Amérique latine, parce que moi, au contraire, j'essayais de pas arriver trop en retard. Mais là-bas, c'est pas grave non plus. Ça fait aussi que tu sois un peu moins stressé si quelque chose t'arrive. Et ça, je pense qu'il y a un lien aussi avec l'aménagement du territoire. On va, on va se mettre un peu sur notre métier, Antoine, mais parce que là-bas, c'est vrai que même les transports en commun, tu sais jamais à quelle heure ça va arriver.
Oui.
Et si tu arrives pas dans un rendez-vous, dans l'heure en laquelle les gens vont dire, peut-être que quelque chose l'est arrivé, et en plus, ça peut être vrai. Mm. Quelquefois, c'est faux, c'est vrai, et ça sont les gens qui disent pas tout. La vérité, mais c'est vrai que ça peut arriver aussi que tu es dans les bouchons ou ton bus n'a pas arrivé. Ici, ça c'est un peu moins probable parce que en plus tu as plus options de transport. Mais en Amérique latine, c'est vraiment la galère quelquefois.
Alors moi, enfin pour revenir avec ce que tu dis, enfin moi je suis souvent en retard et c'est vrai qu'en France c'est assez mal vu d'être en retard. Enfin où les gens, bon c'est pas très mal vu, mais ils vont faire un peu la gueule, etc. Alors que c'est vrai qu'au Mexique c'est la règle, quoi. Enfin, tout le monde est tout le temps en retard. Et par rapport au transport en commun, c'est vrai que si j'aurais pu en parler après, enfin, bon, il y a deux choses, parce que j'étais à Mexico, qui est vraiment une énorme ville, et c'est une autre chose qui m'avait marqué, c'est que j'avais pas parlé, c'est vraiment les routes où il y a vraiment, alors, un nombre de voies, mais alors incalculable pour rentrer de la périphérie de Mexico, parce que j'étais à une heure de route, et on allait plusieurs fois à Mexico, donc il y a un nombre de routes, et c'est inimaginable. Enfin, bon, surtout quand on est de Pau, où il y a quand même pas énormément de routes, alors, il y a des six voies, des tunnels qui passent, des ponts suspendus qui passent les uns au-dessus des autres, et tu dis waouh, comment les gens arrivent à se retrouver dans un tel bordel. Et il y avait aussi les bus, alors il y avait des petits bus dans la ville auquel j'étais. Alors les métros de Mexico sont très bien faits, donc très carrés, etc. Et ces bus, je comprenais jamais comment ça fonctionnait, les arrêts, etc. Parce que, alors j'ai l'impression qu'ils s'arrêtaient à des endroits, d'autres endroits ils s'arrêtaient pas, des fois tu pouvais demander, des fois tu pouvais pas demander. Et même la tarification, je comprenais pas comment ça fonctionnait, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, c'est vrai qu'en France, t'es habitué, tu prends un ticket, t'as un nombre d'arrêts qui sont prévus, et du coup, tu t'arrêtes. Alors là, bon, il y a des arrêts qui sont prévus, d'autres arrêts qui sont pas prévus. Tu payes, alors c'est en fonction du nombre de kilomètres que t'as fait, mais pas vraiment. Enfin, du coup, j'ai même pas réussi à comprendre comment ça fonctionnait, quoi.
Ouais, c'est un peu Paris, mais quatre fois.
Mmh,
à peu près, non? J'étais impressionnée parce que j'ai appris aussi que là-bas, il y a des gens qui pour aller au travail, ils passent 4 heures, aller 4 heures retour. C'est un big. Tu es sur les transports pour arriver à ton boulot. C'est un peu difficile, surtout la ville de Mexico, parce que on doit dire aussi que le Mexique, c'est trop grand. Il y a de tout type de villes, de villages. Et aussi de différents cultures, on pourrait dire, qui marquent les États du Mexique. Par exemple, si tu sors un peu de Mexico et tu vas au sud, ça sera différent. Chiapas, par exemple, ça sera trop différent. Au nord de Monterrey, des États plus au nord, ça sera aussi différent. Et la côte, la montagne, c'est vrai que les voyages à travers le Mexique, ça peut devenir interminable. Je sais pas dans quelle région tu as été, Antoine. Qu'est-ce que tu as connu là-bas?
Ouais, mais en fait, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Alors, moi, j'ai moins voyagé que toi au Mexique, mais c'est vrai que dans les 2 mois où j'y suis allé, donc je suis allé au sud, donc au Yucatan, et donc il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Alors, c'est vrai, bon, je suis allé à Cancun, enfin, qui est vraiment des plages paradisiaques, mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que tu as un côté vraiment fait pour les touristes, quoi. C'est vraiment parce que moi j'habitais très loin dans la ville mexicaine, donc il y a assez une ville pour les travailleurs mexicains, etc. Et quand on passe pour la lagune, les plages, etc., c'est vraiment un truc où il y a que des hôtels, les prix sont en dollars hyper chers, à 60 € la bouteille, les entrées sont à 20 $, sachant que le salaire au Mexique, alors je sais pas combien c'est le salaire moyen, mais ça doit être 100 $ par mois, donc c'est en fait fait pour les touristes, quoi. Et donc il y a vraiment un truc massifié, standardisé, et donc enfin ce contraste est vraiment impressionnant. Et mais en même temps, en allant au Yucatan, donc il y a vraiment un artisanat qui est différent, avec beaucoup de choses un peu amérindiennes, donc des calendriers, etc., qui a beaucoup moins ça à Mexico et dans le nord du Mexique. Et il y a aussi rien que le climat est très différent, parce que c'est un climat. Alors moi je me souviens, enfin du coup t'es permanence en transpiration parce qu'il fait ultra chaud et ultra humide. Enfin je me souviens aussi quand j'avais fait les pyramides, qui est vraiment impressionnant. Et enfin moi aussi c'est un peu ce contraste où d'un côté t'as les prix mexicains qui est à 5 km et les prix on va dire occidentaux, par exemple autour des pyramides où il y a plein de sandwichs à 10 €, etc. Et aussi ce côté très dépaysant d'avoir une énorme jungle à côté avec des pyramides, etc., enfin qui est quand même des choses impressionnantes de différence. Et je suis allé alors un peu vers Monterrey et Tequila Jalisco, plutôt au nord, centre-nord, quoi. Et là, c'est aussi très différent parce que c'est vraiment... Alors là, pour le coup, c'est hyper coloré. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, avec plein de couleurs différentes, etc. Un climat totalement différent, donc beaucoup moins humide. Et donc des rues avec plein de couleurs, plein de places, etc. Et des rues beaucoup plus coloniales, donc avec des souvenirs comme ça. Et ce qui était marrant aussi à Tequila Jalisco, c'est qu'il y avait aussi des cultures très différentes avec plein de cultures pour la tequila. Donc des sortes de... Alors je ne sais plus comment ça s'appelle. Des agaves, je crois. Donc c'est des sortes
les
d'ananas.
Agaves. Si, c'est les agaves. Si.
Et alors c'était des plants... c'était très beau parce que c'était des plants... Enfin, comme des feuilles d'ananas, mais bleues. Alors, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais... Donc, c'était magnifique. Alors, sur des cinquantaines de kilomètres, des centaines de kilomètres, donc, toutes les pentes étaient colorées de bleu. Donc, c'était vraiment très, très beau. Et je me rappelle aussi, il y avait des immenses barriques de tequila sur toute la ville, qui étaient donc... Enfin, c'était super beau. Et je me souviens aussi de San Miguel de Allende, aussi, où c'est un autre style différent, où il y a une église qui fait un peu presque Disneyland avec des immenses tours et aussi à nouveau très coloré avec une très grande place, etc. Donc il y a vraiment, enfin moi aussi j'avais vu une très grande diversité de paysages et j'avais fait aussi la ville la plus haute du Mexique, je crois que c'est Minas Grievas, où là aussi il y a plein de collines et plein de maisons sur les pentes des collines aussi, donc c'était très très beau.
Ça c'était où? C'était...
Je crois que c'est à 2 heures de Mexico, mais alors
C'est proche du centre.
Ouais, il me semble. Ouais, je sais plus exactement où c'était. Enfin, c'est vrai que bon, du coup, moi sur les distances, etc., au Mexique, c'est aussi voilà. L'autre chose aussi, c'est que les distances, c'est pas du tout la même chose quand.
Mais c'est vrai qu'il y a un truc aussi. Ça que tu dis me fait penser qu'en parlant de nouveau de la langue, que c'est le but principal de notre émission, c'est que quelquefois au Mexique, les mots pour te faire tomber en désert, on dira, ou vont te faire vivre des expériences sympas aussi. J'ai une anecdote, parce qu'au Mexique, c'est pas seulement l'espagnol, comme ça arrive dans la plupart des pays latino-américains qui sont aussi influencés par les langues originelles, natives. Au Mexique, c'est pareil, il y a plein de langues indigènes qui vont se mélanger sur l'espagnol, et ça rend un peu difficile les trucs pour les étrangers. Et moi, ce qui m'est arrivé, c'est par rapport à la nourriture. Là-bas, la nourriture, la plupart ont des noms en maya, dans des langues régionales, dans les langues locales. Et une fois, je me rappelle que j'étais à Oaxaca et j'ai demandé un tlacoyo. Je pensais que c'était tlacoyo, et tlacoyo, c'est un plat qui, si je ne me trompe pas, c'est plutôt du centre du Mexique, je crois. Mais c'est une petite tortilla qui se fait de la farine de maïs. Mais c'est tout petit, c'est un peu comme les arepas. Et que dedans, il y a de poulet, des haricots, des trucs comme ça. Mais c'est une taille normale que tu peux prendre 2 ou 3 sans problème. Mais je suis arrivée en Oaxaca, j'avais faim et je suis allée dans un petit poste sur la rue, parce que ça c'est aussi une grosse différence avec la France, c'est que tu as de la nourriture de rue, mais la vraie nourriture de rue. Et je suis allée pour demander un tlacoyo. Mais je me suis trompée avec tlayuda, que c'est la nourriture locale. Et j'ai demandé d'où, et la dame qui faisait la nourriture me dit, mais tu es sûre, tu voulais d'où, et c'est pour emporter? Et j'ai dit, non, c'est pour manger ici. Et elle me regarde bizarrement, mais elle dit, ok, attends, sont des étrangers, ils sont fous, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a pensé, mais elle commençait à faire. Et quand j'ai vu ça qu'il fait, c'était de la taille d'une pizza. C'était de la tortilla, mais c'est la tortilla de maïs en plus. Je crois, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si c'est maïs au blé, mais c'était la taille d'une pizza qu'elle doublait au milieu et qu'elle me fait. Et j'ai dit, désolé, je pense que je vais emporter une. Je ne mangeais qu'une. Et elle commençait à rigoler. Et comme ça, je suis arrivée dans mon hébergement. Et j'ai parlé à des gens pour s'ils voulaient un tlayuda. Et c'est comme ça aussi que je me fais des amitiés là-bas. Mais est-ce que ça t'est arrivé aussi quelques trucs par rapport à les noms dans notre langue là-bas?
Alors, d'abord, pour revenir avec ce que tu disais, c'est vrai que c'est une autre chose qui m'avait marqué, je n'en ai pas parlé, c'est vraiment cette... avec plein de petits restaurants, enfin, de micro... comment dire... enfin, gens qui préparent de la nourriture de rue, mais vraiment au bord de la route, ou qui ont des sortes de choses ambulantes aussi qui bougent, et qu'on n'a pas du tout ça en France, ou qui préparent des boissons, etc. Alors moi, ça m'est un peu moins arrivé que toi, parce que du coup, j'étais avec des Mexicains, du coup, qui traduisaient un peu la nourriture, mais c'est vrai que pour prononcer certains trucs... Je me rappelle que j'ai mis énormément de temps à réussir, surtout les choses qui étaient d'origine indigène. Enfin, en gros, c'est pas indigène parce que c'est connoté comme mot, mais d'origine amérindienne. Et par exemple, tlaquepeque, j'ai mis beaucoup de temps à le prononcer, ou le quetzalcoatl, parce qu'on n'a pas du tout ces gle en français, et donc oui. C'était super compliqué. Alors je sais que on rigolait avec ça, parce que vraiment, à chaque fois, je buguais sur les mots... Et c'est vrai que aussi il y a un peu ce mélange de noms, etc. Notamment le pulque, par exemple. Enfin, je me rappelle des choses qui viennent des indigènes et du coup qui sont encore utilisées. Alors, il y avait aussi quelque chose que j'avais goûté et qui était très compliqué à dire, mais je me rappelle plus le nom. C'était une boisson à base de cacao qui était très bonne. Et, c'était pas
la
un chocolat.
Cocoa, je pense, non?
C'est possible. Mais il me semble.
Qui les font dans les marchés avec un petit. Pâle, c'est pas comment dire en français, ouais. Un petit truc comme ça, et c'est ça.
Alors moi, j'en avais bu pas loin d'une pyramide, mais je me souviens plus exactement comment ça s'appelait, et c'était vraiment une sorte de boisson faite avec du cacao ultra épaisse, mm-hmm. Et vraiment, c'était super bon, mais c'est du cacao chaud un peu, alors je sais pas ce que c'était, ouais. Et alors vraiment, bon, c'était des saveurs qu'on connaît pas du tout, donc...
Oui, c'est vrai que par rapport à les fruits, la base des fruits très, très frais, très local, et le cacao aussi, c'est trop bon là-bas. Alors, je pense qu'on a pas mal parlé déjà et on a fait un petit tour par le Mexique. Et je te remercie, Antoine, pour être ici, pour parler un peu de Mexique. Et je sais que c'est un pays que te passionne aussi, que tu as bien aimé. Et merci pour nous avoir fait voyager un peu et suivre un peu ton expérience en tant qui est étudiante à l'étranger aussi. Et pour finir, si tu veux surtout donner un conseil à des étudiants français que vous allez au Mexique, tu peux le faire aussi dans ce moment-là. Comme ça, on encourage aussi plus de gens à aller en Amérique latine.
Mais merci à toi de m'avoir invité. Alors, un conseil que je pourrais donner, ça serait de pas mal visiter le Mexique et aussi de pas aller forcément dans les trucs, les gros spots touristiques. Enfin, en gros, déjà, ça va coûter plus cher et en plus, ça va être très aseptisé. Ça va pas être forcément la culture mexicaine, on va dire, normale, quoi. Ça va être pas forcément la nourriture mexicaine, ça va être des choses plutôt aseptisées pour les étrangers. Donc, de visiter le Mexique un peu en sortant des sentiers balisés, bon, tout en faisant attention parce que c'est quand même, bon, pas toujours très sûr à tous les endroits, donc on va faire quand même un peu attention. Mais aussi, voilà, d'essayer de visiter le Mexique. Et qu'il y a une très grande diversité culturelle au Mexique. Enfin, voilà. Enfin, c'est vrai que même au niveau, enfin, avoir des vestiges mayas ou d'autres peuples originels, il y a vraiment des choses magnifiques qu'on verra pas du tout en Europe, quoi. C'est vraiment incroyable. Et bon, moi, il y a des choses que j'aimerais bien visiter que j'ai évidemment pas eu le temps, notamment le Chiapas, des choses comme ça qui ont vraiment l'air magnifiques et que j'ai pas eu encore le temps de visiter parce que c'est quasiment un continent, quoi, le Mexique. Enfin, c'est ce qu'on n'a pas forcément dit, mais c'est, je sais pas, enfin, une taille, c'est comme le Portugal jusqu'à la Pologne, quoi, à peu près. C'est monstrueux.
Alors, merci beaucoup, Antoine. Et maintenant, on va passer à écouter un peu la musique mexicaine pour prendre cette ambiance de fête qui est aussi très caractéristique de ce pays. Et on va continuer avec Linda dans cette émission.
Bon, déjà, pour moi, c'était super intéressant d'écouter les points de vue d'Antoine, d'un Français qui a vécu au Mexique. Parce que, moi, en tant que Mexicain, j'ai pas les mêmes regards qu'un étranger qui arrive chez nous et voit les Mexiques comme ces pays un peu exotiques, avec plein de couleurs. Parce que moi, évidemment, je suis née avec ça et on s'habitue et on les regarde plus comme ça. Mais c'est vrai que le Mexique est un pays assez particulier. c'est un pays, voilà, comme l'a dit Antoine, avec plein de couleurs dans les maisons. Moi, par exemple, dans mon quartier, je les vois chez les voisins. Mon voisin qui a une maison qu'il a peint en purple, par exemple. Et par rapport à la musique aussi, c'est vrai. Les Mexicains, on aime bien la fête. La musique, ça fait partie de la culture. Et c'est pas comme en France que, par exemple, les jours de la musique, où c'est un jour dédié pour mettre la musique, c'est à ces jours-là, quoi. Nous, c'est tous les jours. Et c'est ça. Et bon.
Et est-ce que Café Tacuba, c'est un groupe qui est aussi trop populaire là-bas? C'est comment?
Oui, Café Tacuba, c'est un des groupes les plus populaires. Moi, quand j'étais petite, j'ai un peu un temps enlevé, j'étais enlevée avec cette musique. Mon oncle la mettait quand il était adolescent. Il les mettait dans sa chambre et tout. Il me dit, ah oui, viens, on va danser Café Tacuba. Alors, ça fait partie de mes souvenirs d'enfance. Et bon, c'est un groupe qui aussi est reconnu, pas seulement au Mexique, sinon en toute Amérique latine. Je vois que les groupes mexicains, ils sont assez connus. Ça me fait plaisir de voir l'influence de la musique mexicaine au-delà du Mexique. Et bon, pour moi, Café Tacuba, c'est un groupe spécial parce que c'est un groupe festif, mais aussi il a des chansons qui parlent d'amour, qui parlent même un peu des conditions sociales du Mexique. Ça parle de tout.
Quel autre groupe du Mexique tu recommanderais à les gens ici qu'il faut écouter aussi?
Ah, j'adore un groupe qui s'appelle Zoé. Et cette OE, c'est un de mes groupes préférés. C'est un peu plus récent que Café Tacuba. Et bon, c'est un peu la musique rock aussi. C'est rock alternative en espagnol. C'est vachement, je le recommande.
Et par rapport à la nourriture, quelle nourriture tu préfères de ton pays?
C'est une question très difficile parce qu'il y a tellement de nourriture chez nous. Il n'y a pas que les tacos, parce que c'est vrai qu'on dit « Ah oui, Mexique égale tacos ». Non, non, non. Mais c'est vrai que nous, on prépare la plupart de nos plats à la base de maïs. Mm-hmm. Alors, ça peut se ressembler toujours aux tacos. Un jour, j'ai entendu un étranger qui a dit « Vous, les Mexicains, vous faites toujours des tacos, mais des 50 façons différentes, et vous dites que c'est 50 plats différents ». Mais non, on a des variations. Par exemple, chaque État utilise des différentes sauces, des différents types de viande, des différents ingrédients, et ça fait un peu la richesse gastronomique de mon pays.
Et ça dépend aussi de la personne qui le fait, non?
Oui, aussi.
Je me rappelle que les mollets, et les mollets poblanos, ce n'est pas les mêmes mollets. Ça dépend de la personne qui le fait. Les goûts changent, et aussi par rapport à la région. Et Linda, tu es de quelle région au Mexique?
Moi, je viens de la ville de Mexico où on a une gastronomie un peu plus de ville. Je pense que pour trouver les bons goûts, il faudrait aller un peu en Provence où là, il y a vraiment des vrais des indigènes qui font la nourriture un peu plus traditionnelle. Parce que c'est vrai que dans toutes les villes, ça devient un peu moins. Je sais pas, c'est pas le même goût qu'en Provence. Mais déjà, on, la ville de Mexique, on mange bien. On a nos plats traditionnels un peu. Par exemple, on mange des tamales. Mm-hmm. Et on a une espèce de mélange de tamales avec du pain qu'on appelle guajolota. Mm-hmm. Et ça, c'est mexicain. Mais de la ville de Mexico. Et tous les gens en Provence, ils se moquent de nous. Mais bon, déjà, les gens en Provence, ils se moquent de la gens de la ville de Mexico. Un peu comme, je sais pas, les gens de tout le pays du monde, ils se moquent des gens de la ville, de la capitale. Bon, pour nous, c'est pareil. On fait du bullying pour les gens de la ville de Mexico.
Ouais, tu ne veux pas dire, mais vous êtes les chilangos, c'est ça?
Mais oui, c'est ça.
Mais par rapport à la langue, quelle est la principale caractéristique de l'espagnol chilango, si on peut dire de cette façon?
Bon, la ville de Mexico, il y a beaucoup, une population assez énorme, ça fait qu'il y a beaucoup d'accents. Et dans ces accents, on peut trouver l'accent fresa, c'est un peu l'accent des gens de la ville de Mexico qui ont plus d'argent, qui parlent un peu plus. Hola, güey, ¿cómo estás?
Ça fait un peu drama mexicain, quoi.
Oui, c'est ça, c'est leur accent pour se distinguer. Après, il y a l'accent des gens qui sont un peu des banlieues, qui parlent « Hola, ouais, comment estás ?» Non, je peux pas le faire. C'est raté. Mais bon, c'est un accent particulier. Et oui, ça change trop. On a nos vocabulaires à nous, que même parfois les gens de Provence ne reconnaissent pas.
Voilà. Okay. Et est-ce que tu as perdu ton accent chilango, tu trouves?
Je crois que oui, parce que plusieurs gens m'ont dit que déjà j'ai plus d'accent.
Alors, Mademélina, qu'est-ce qui s'est passé avec ton accent? Je sais pas, je pense que peut-être le fait de parler en français. Là, j'ai plus d'accent dans ma langue espagnole, apparemment. Mais bon.
T'as un accent d'expatrié, en tout cas.
Exactement, un accent maître. Il faudra que je retourne et je prends un accent un peu chilango. Voilà.
Merci Linda pour tous ces commentaires sur ton pays. On a pas mal bougé aujourd'hui. Hein?
Oui, c'est vrai, mais moi je suis très contente de partager ces expériences et surtout d'entendre Antoine. C'est toujours intéressant d'écouter un Français parler de mon pays. J'adore.
Oui, c'est vrai. Merci Antoine aussi pour avoir et partagé avec nous. Et maintenant, merci à tout le monde pour nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et on va revenir le mois prochain. Hein?
Ah oui, on a plein de sujets intéressants de parler parce que l'Amérique latine, c'est un endroit très vaste et wow, il y a beaucoup de choses à dire.
Oui, la prochaine, ce sera mon tour parce qu'on va parler de Paraguay, un pays moins connu qu'au Mexique quand même, mais on va mélanger avec l'Uruguay parce que c'est ça que les gens le font tout le temps. Mais pour ne pas confondre, on va parler un peu des différences du pays, de la langue. Et on espère avoir des invités intéressants aussi.
D'accord, moi je vais apprendre alors, parce que moi, je t'ai vu que je ne connais pas trop les différences entre le Paraguay et l'Uruguay. Non plus, je fais partie de ces gens-là qui ont besoin d'apprendre ça. Mais bon, ouais. On va le faire toutes les deux.
Ok, à la prochaine et merci beaucoup. Hein.
Merci à toi aussi, Clara. Du Nord au Sud, les podcasts de Radio Campus Po pour parler de la langue et de culture hispanique et latino-américaine. Et parfois, pour parler les français mélangés à l'espagnol.